Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur les deux rédempteurs dans Ruth chapitre 1, plutôt Ruth chapitre 3 et le verset 1. Naomi, sa belle-mère, lui dit « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent ? Voici, ils doivent vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds, et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. » Elle lui répondit, « Je ferai tout ce que tu as dit. » Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors, tout doucement, découvrir ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici, une femme était couchée à ses pieds. Il dit, « Qui es-tu ? » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Et il dit, « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre, plus proche que moi. Passe ici la nuit et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat, à la bonne heure, qu'il le fasse. Mais si il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai. Moi, l'Éternel est vivant, reste couché jusqu'au matin. Amen. » Il y a un tournant majeur dans la vie de Naomi, alors qu'elle va reconnaître Boaz comme son rédempteur. Quand on connaît un petit peu l'histoire de Naomi, Naomi, c'est celle qui avait quitté Bethléem, donc c'est la belle-mère de Ruth. Elle était partie avec son mari, elle était partie à Moab, la région du péché. Et là-bas, catastrophe sur catastrophe, la mort de son mari, la mort de ses deux fils. Elle se décide à revenir à Bethléem. Mais dans son état d'esprit, ses paroles sur Dieu, c'était plutôt négatif. Elle disait « La main de Dieu est contre moi ». Elle disait « L'Éternel m'a rempli d'amertume. » Bref, elle disait, c'est la faute de Dieu tout ce qui m'arrive. Alors que c'est elle qui avait pris ses décisions. Et le jour où elle a reconnu Boaz comme son rédempteur, c'est-à-dire que Boaz, c'est une image de Christ, elle a reconnu Boaz comme son rédempteur, elle a changé de discours, à la fois sur Dieu, et aussi elle a commencé à avoir des paroles prophétiques. On en a vu quelques-unes la semaine dernière. Il y en a trois qui sont dans ce passage. La première, c'est « Lave-toi ». La deuxième, c'est « Oins-toi ». Et la troisième, « Remets tes habits ». Donc, petit rappel, « Lave-toi » parce que on ne peut pas s'approcher de Dieu n'importe comment. Il faut d'abord se laver, être purifié par la parole. Vous avez cet exemple du sacrificateur qui, avant d'entrer dans le lieu saint, devait se laver les pieds et les mains. Donc, se laver, ça veut dire être purifié par l'eau de la parole. Une fois que vous êtes purifié par l'eau de la parole, oint-toi, ça veut dire que dans le lieu saint, il y avait le chandelier avec l'huile d'onction. Oint-toi, ça veut dire de marcher dans l'esprit. Mais on ne peut pas marcher dans l'esprit si on n'est pas passé par la purification. Donc, vous avez cette deuxième étape, oint-toi, et l'onction, c'est être rempli du Saint-Esprit et marcher dans l'esprit. On en a besoin. Mais n'imaginez pas que vous allez vivre l'onction si vous négligez d'être lavé par l'eau de la parole. Troisième parole prophétique, remets tes habits, puisqu'il y a deux sortes d'habits. Il y a les habits que le diable a prévus pour vous, c'est un habit d'abattement, de désolation, de tristesse. Et Dieu a prévu un habit pour vous qui est un vêtement de louange, de reconnaissance et d'action de grâce. Donc quand elle dit « remets tes vêtements », ça veut dire « ne reste pas avec des vêtements que le diable veut mettre sur ta vie », c'est-à-dire les vêtements d'abattement, on a vu ça la semaine dernière, mais revêt le vêtement de louange qui est fait pour toi, c'est-à-dire soit dans la reconnaissance, l'adoration. Trois paroles prophétiques. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que nous pouvons, nous aussi, si nous reconnaissons que Jésus est notre Rédempteur, nous pouvons, nous aussi, si nous changeons de discours, avoir des paroles prophétiques. Les paroles prophétiques que donne Naomi ici, c'est parce qu'elle a reconnu Boaz comme son Rédempteur et qu'elle a changé de discours. Mais nous avons d'abord besoin de changer de discours une fois que nous avons reconnu qui est Jésus et ne pas laisser nos paroles vagabonder à tort et à travers. Vous savez, il y en a certains, ce sont des moulins à paroles, ils parlent. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et nous devons apprendre à canaliser notre langue afin d'aligner notre discours sur la parole de Dieu. C'est ce qu'a fait Naomi. Naomi parlait à tort et à travers. Elle disait des choses insensées sur Dieu, mais elle a appris à changer de discours et à parler selon la parole de Dieu. Alors vous allez dire, c'est pas grave, c'est que des paroles, c'est pas un grand péché, c'est pas grave. Mais pour Jésus, c'est important, regardez Matthieu chapitre 12, verset 37. Jésus n'a pas dit que c'était pas important les paroles, au contraire, il dit, car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Donc il y a un point essentiel, c'est à aligner notre discours sur la parole de Dieu. Là, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et qu'est-ce qu'a fait Naomi? Elle a commencé à dire « L'Éternel est miséricordieux, l'Éternel est bon, l'Éternel est grand. » Et elle a commencé à dire des vérités sur Dieu. Je continue, en fait, à la suite de ce qu'on a vu la semaine dernière, une quatrième parole prophétique. Donc, on est toujours dans Ruth, chapitre 3. Et c'est au verset 4. Et Naomi continue en disant, observe le lieu où il se couche. Observe le lieu où il se couche. Donc elle parle de Boaz. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, tu vas observer Boaz, tu vas regarder le lieu où il se couche. Qu'est-ce que cela signifie? Nous avons dit que Boaz, c'est une image de Jésus-Christ. Observe le lieu où il se couche. Dans le Nouveau Testament, nous savons que Marie de Magdala et l'autre Marie sont allées très tôt le matin au tombeau. Jésus avait été mis au tombeau, donc le vendredi soir. Très tôt, elles sont venues avec des aromates pour embaumer son corps parce que, à la hâte, il l'avait déposé dans le tombeau, il n'avait pas eu le temps de faire la procédure pour son embaumement. Et alors qu'elles arrivent, la Bible dit que la pierre a été roulée et un ange apparaît et cet ange lui dit dans Matthieu chapitre 28, verset 6, en parlant de Jésus, « Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il est couché. » Voyez le lieu où il est couché. Et on retrouve cette même expression, « Regardez le lieu où il se couche. » Naomi ne percevait pas le sens spirituel ou prophétique de ces paroles parce qu'elle, elle parlait de Boaz. C'est une histoire vraie, c'est une histoire qui a existé. Il y a eu un vrai Boaz, il y a eu une vraie Ruth, une vraie Naomi. Ce n'est pas une histoire inventée. Et en fait, ce qu'elle disait qui était historique, quand elle disait à Ruth, « Mais regarde Boaz, regarde le lieu où il se couche. » En fait, ces paroles désignaient spirituellement un autre Boaz qui était Christ et un autre endroit où il allait être couché, c'est-à-dire son tombeau. Et à l'époque, elle pouvait voir Boaz. Mais quand les femmes sont arrivées et qu'elles ont regardé le lieu où il était couché, elles n'ont pas pu le voir. Pourquoi ? Parce qu'il était ressuscité. Il était ressuscité. Ça veut dire que Jésus, nous ne pouvons plus le voir avec nos yeux physiques, mais nous pouvons regarder le tombeau où il était couché et dire « Il est ressuscité ». La pierre a été roulée, il n'est plus dans le tombeau. Il a vaincu la mort et son pouvoir. Ben ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est-à-dire que la mort a été vaincue par Christ à la croix. Dans le chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, Paul fait un discours magistral sur la résurrection et l'importance de la résurrection de Jésus, qui est un gage de la nôtre. Et il dit ceci, il dit que Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Ça veut dire quoi pour nous ? Ben, il explique que de même que Christ est ressuscité le premier d'entre les morts, c'est une garantie que nous aussi qui croyons en Christ, nous ressusciterons d'entre les morts. Donc quand vous regardez le tombeau, vous le voyez vide, vous voyez que Jésus est ressuscité des morts, eh bien c'est une garantie pour vous, si vous croyez en Jésus, que vous allez ressusciter d'entre les morts aussi. Il est les prémices. Et Paul continue son raisonnement et dit, mais si vous ne croyez pas que Jésus est ressuscité des morts, votre foi est vaine. Vous n'avez pas d'espérance. Vous êtes morts dans vos péchés. Et il n'y a aucune espérance dans la résurrection, puisque s'il n'est pas ressuscité des morts, vous ne ressusciterez pas non plus d'entre les morts. Voyez, regardez le lieu où il était couché. Ça veut dire, soyez assurés que Jésus est ressuscité d'entre les morts et que vous avez part à la résurrection, vous aussi. Ça, c'est la quatrième parole prophétique. Regarde le lieu où il était couché. Cinquième parole prophétique. Découvre ses pieds et couche-toi. Ruth, donc, devait aller où était couché Boaz et se coucher à ses pieds, littéralement se coucher à ses pieds. Quel est le sens spirituel ? Qu'est-ce que cela veut dire pour nous ? Eh bien, il y a une manière de s'approcher de Jésus qui plaît à Dieu, c'est quand nous nous humilions, quand nous nous couchons à ses pieds, quand nous donnons toute notre vie à Christ. Je prends l'exemple de cette femme qui est venue chez Simon, le pharisien qui avait organisé un repas, donc lui, il avait invité Jésus chez lui, donc on peut dire qu'il avait déjà une certaine proximité, parce que tout le monde n'a pas invité Jésus chez lui, c'était déjà une première étape, donc il parlait avec Jésus, on peut dire qu'il s'est approché de Jésus quand même, malgré tout, c'est une manière de s'approcher de Jésus, le pharisien, mais dans son cœur, il était quand même distant, il était un peu dans la réserve. Surtout au moment où une femme pécheresse, une femme de mauvaise vie, est entrée, elle a entendu que Jésus était dans cette maison, elle a fait irruption dans la maison en plein milieu du repas, et elle carrément, alors qu'ils étaient en train de manger, carrément elle s'est couchée aux pieds du Seigneur. Couchée aux pieds du Seigneur, et elle a répandu son parfum qu'elle avait amené dans un vase d'albâtre, elle a répandu sur ses pieds, et la preuve qu'elle était couchée aux pieds du Seigneur, c'est que la Bible dit qu'elle essuyait les pieds du Seigneur avec ses propres cheveux. C'est pas possible si vous n'êtes pas... même assis, vous pouvez pas. Il faut être couché, il faut être le nez par terre pour pouvoir faire ça. Elle était littéralement couchée aux pieds du Seigneur. Elle a répandu son parfum. Un parfum, 300 deniers. 300 deniers, ça fait combien ? On dit qu'un denier, c'est à peu près une journée de travail. Donc presque une année de travail. Ça fait beaucoup d'argent quand même. Ça fait un parfum très cher. Ah, les disciples en eux-mêmes, ils se disaient, mais pourquoi on n'a pas vendu ce parfum pour le donner aux pauvres ? Vous allez trouver peut-être que c'est cher pour un parfum, mais il y a plus cher encore. Le parfum le plus cher du monde. L'Imperial Majesty Parfum. Si vous achetez 30 millilitres, messieurs, si vous voulez faire plaisir à votre épouse, il y a des épouses qui font d'accord. 30 millilitres, il faut débourser 380 000 euros. Donc regardez si votre compte en banque est bien approvisionné avant de faire le chèque, parce que là, vous allez avoir un trou dans le budget. 380 000 euros, ne visez pas le litre au début, commencez par 30 millilitres, parce que c'est énorme. Ben, il y a des gens qui ont les moyens d'acheter ce type de parfum. Mais là, ils ont dit, mais cette somme, là, c'était 300 deniers, mais c'était déjà colossal. Presque une année de travail. Pourquoi l'avoir dépensé ? Mais le Seigneur, il dit, mais vous ne comprenez pas ? Ce que cette femme a fait est bien. Parce que prophétiquement, et voyez, on fait des gestes prophétiques. Cette femme, en fait, sans le savoir, le réaliser pleinement, en mettant du parfum sur les pieds et la tête de Jésus, Jésus lui dit, elle m'a prophétiquement embaumé en vue de ma sépulture. Donc vous voyez, cette femme ne réalisait pas ce qu'elle faisait. Elle s'est mise au pied du Seigneur, elle a dépensé tout son parfum, c'était une grosse somme d'argent, mais elle l'a fait pour honorer Jésus. Eh bien, Jésus a honoré cette femme parce que les deux femmes qui étaient venues, Marie de Magdala et l'autre Marie, elles sont venues avec les parfums, mais Jésus était déjà ressuscité. Il n'a pas eu l'embaumement de ces femmes-là. Les parfums, il ne les a pas eus. Par contre, cette femme, il a eu son parfum, mais prophétiquement. Et Jésus dit, elle l'a fait par avance. Elle a embaumé mon corps en vue de ma sépulture. Donc, qu'est-ce que fait cette femme quand elle vient au pied de Jésus et qu'elle se couche à ses pieds, cette femme pécheresse? Eh bien, elle donne entièrement sa vie à Christ. Et c'est comme si elle dit, Seigneur, prends ma vie, je te donne tout. J'abandonne ma vie. Je me consacre entièrement à toi. Ça veut dire, je ne suis plus rien, tu es tout pour moi. Simon était gêné d'une telle proximité parce que lui était quand même un peu plus distant. Il se serait jamais mis au pied du Seigneur. Il se serait jamais couché devant le Seigneur. C'était pour lui impensable. Et en même temps qu'il voit cette scène, il résonne dans son cœur et il dit, mais il le dit pas à haute voix, il le dit dans son cœur. Il dit, mais si cet homme, en parlant de Jésus, si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est cette femme qui vient de rentrer. Il saurait que c'est une femme pécheresse. Ça veut dire, il la laisserait pas se coucher à ses pieds et le toucher parce que les Juifs croyaient que si un pécheur vous touchait, vous deveniez pécheur. Donc, il l'aurait écarté. Mais Jésus, connaissant sa pensée, va révéler que son cœur est éloigné de Dieu et que cette femme, elle, qui a beaucoup aimé, il lui a été beaucoup pardonné. Tous ses péchés ont été pardonnés, en fait. Mais cet homme qui était pharisien et qui pourtant était proche de Jésus parce qu'il a mangé avec lui, il l'a reçu chez lui, ben Jésus lui a pas dit « tes péchés te sont pardonnés et ta foi t'a sauvé » parce qu'il n'avait pas cette humilité, il ne s'est pas prosterné, il ne s'est pas couché au pied du Seigneur en signe de reconnaissance que Jésus est mon sauveur et mon Seigneur. Cette femme l'a fait. Elle a fait le pas de foi, le pas supplémentaire. Se coucher au pied de Jésus, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Ben, ça signifie une entière consécration. Il ne s'agit pas d'être des chrétiens le dimanche, voilà, on est chrétien le dimanche, on fait notre culte, gloire à Dieu, tout se passe bien, et puis le reste de la semaine, on vit comme des païens. On vit loin du Seigneur, on n'a pas de temps de prière, on ne lit pas la parole de Dieu, on ne médite pas, on ne prie pas. Ça, ce n'est pas une vie de consécration. Se coucher au pied du Seigneur, c'est-à-dire, c'est accepter que Jésus devienne le Seigneur de notre vie. Il y a beaucoup de chrétiens, là, ils acceptent bien que Jésus soit leur sauveur. Jésus est mon sauveur. Oui, gloire à Dieu. Jésus m'a pardonné mes péchés. Ça, tout le monde est content. Il nous a pardonné nos péchés. Jésus a guéri ma maladie. Gloire à Dieu. Donc, on aime bien tout ce que Jésus fait pour nous. Qu'il nous protège, qu'il nous bénit, qu'il nous guérit, qu'il nous sauve. Ça, c'est Jésus le sauveur. Mais il y a une autre étape qui est vraiment fondamentale dans la vie chrétienne, si vous voulez avancer avec Christ, c'est que Jésus devienne votre Seigneur. Mais là, ça veut dire se coucher à ses pieds. Et il y a beaucoup de chrétiens qui veulent pas se coucher aux pieds du Seigneur, qui préfèrent faire leur volonté plutôt que la volonté de Dieu. Parce que ça veut dire quoi, se coucher aux pieds du Seigneur? Ça veut dire une telle consécration, c'est comme si vous disiez à Jésus, « Seigneur, non plus ma volonté, mais ta volonté. » Seigneur, pas le travail que je souhaite, mais toi, tu me conduiras vers le travail que tu veux pour ma vie. Ça veut dire pas les relations que je souhaite, mais toi, tu as prévu des bonnes relations pour moi. Quelles sont-elles? Conduis-moi vers ces relations. Éloigne de moi les mauvaises relations. Ça veut dire l'argent, c'est toi qui me l'as confié, c'est toi qui en es le maître, c'est toi qui dispose de mes biens. Ça veut dire tout ça. Vous comprenez, il y a moins de candidats. Il y a beaucoup plus qui veulent être sauvés, beaucoup plus qui veulent être guéris, oui. Là, il y aura toujours du monde. Mais pour dire à Jésus, « Jésus, je voudrais que tu sois mon Seigneur à partir d'aujourd'hui », vous allez voir qu'il y a moins de personnes qui seront volontaires. Parce que si vous réalisez ce que ça engage, ça veut dire vous donner tout à Christ. Vous donnez tout. Vous donnez vos biens, votre temps, vos relations, tout, en fait 100% est au Seigneur. Voilà ce que fait cette femme quand elle se couche au pied du Seigneur. Et si vous le voulez vraiment, parce que Jésus ne force personne, il ne s'impose pas à vous pour être votre Seigneur, c'est à vous de l'accepter, c'est à vous de vous prosterner. Jésus ne s'impose pas, mais si vous le voulez et que vous vous couchez aux pieds du Seigneur, que vous dites « moi j'abandonne ma vie à Jésus », eh bien vous pourrez rentrer dans la dimension de la volonté de Dieu et du plan de Dieu pour votre vie. Parce que le plan de Dieu pour votre vie, on ne le découvre pas comme ça par hasard. Il faut à un moment donné abandonner notre vie à Dieu pour réaliser le plan de Dieu pour notre vie. Regardez l'exemple de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il a reçu le ministère de prophète. C'était pas n'importe qui, Jean-Baptiste. C'était le précurseur du Messie. Même, Jésus dit, c'était le plus grand. C'est le plus grand, Jean-Baptiste. Le plus grand dans le royaume de Dieu, parce qu'il a été le dernier des prophètes de l'Ancien Testament, celui qui a vu Jésus. Ben, Jean-Baptiste a dit, quand il a vu Jésus venir se faire baptiser, il a dit, Jésus, il faut qu'il croisse, et moi, il faut que je diminue. Qu'est-ce qu'a fait Jean-Baptiste? En réalité, il s'est couché au pied du Seigneur. Il s'est couché au pied du Seigneur pour dire, moi, je disparais, moi, je diminue, moi, je ne suis rien, et lui, il est tout pour moi. Et là, quand vous arrivez là, vous pouvez dire « Jésus est mon Seigneur ». Mais si vous êtes toujours à chercher les places, toujours à être en vue, par orgueil, à vouloir faire des choses, ben vous voulez toujours croître, mais la clé pour trouver le chemin que Dieu veut pour nous, c'est l'humilité. Il faut diminuer, c'est-à-dire se coucher aux pieds du Seigneur. J'en arrive au deuxième point, c'est maintenant le premier rédempteur. Puisque j'ai dit, il y a deux rédempteurs. Le premier rédempteur, c'est celui qui arrive avant Boaz, on l'a lu dans ce texte. Boaz dit à Ruth, il y en a un qui est avant moi. Il y avait donc un rédempteur avant Boaz. C'est comme si Boaz lui dit, si le premier rédempteur use de son droit de rachat envers toi, c'est bien. Mais s'il ne le fait pas, moi je le ferai. Donc, il est le deuxième rédempteur. Le premier, c'est celui qui n'est pas nommé, d'ailleurs, puisque on n'a pas son nom, on n'a pas son origine. Il est appelé un tel dans la Bible, un tel. Donc, ça veut dire on ne sait pas son nom. Mais c'est lui qui a le droit de rachat. Alors, le droit de rachat, on a déjà expliqué ce que c'était la dernière fois. Le droit de rachat, c'est tout simplement que quand il y avait un décès, par exemple, un homme qui mourait en laissant une femme veuve, eh bien, un proche parent avait le droit de rachat des biens, des propriétés, des terres pour payer les dettes, mais aussi racheter la famille pour susciter une descendance au défunt afin que des enfants viennent à son épouse qui était encore vivante et que ainsi on susciterait une descendance à cet homme qui est décédé. C'était le principe de l'époque. Donc, qui est le premier rédempteur dont Boaz parle? La Bible ne dit pas son nom, mais on a des indices importants, c'est-à-dire qu'avant Jésus-Christ, il y avait un seul rédempteur. Avant Jésus-Christ, le moyen pour être sauvé, c'était la loi. La loi, c'est donc le premier rédempteur, la loi. Avec la loi, si vous obéissiez à la loi, vous étiez sauvé. Mais si vous désobéissiez à un seul commandement de la loi, vous étiez condamné. Le seul moyen de pardon des péchés dans la loi, il y en avait un, c'était qu'il fallait offrir des animaux en sacrifice, les égorger, répandre le sang. Et tout ce sang versé, c'était une image du sang de Jésus qui allait être versé pour le péché du monde. Donc ça, c'était la loi. Le premier rédempteur avait ses limites, parce que dans l'Ancien Testament, on ne pouvait être sauvé qu'en observant toute la loi. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas seulement les 10 commandements, on connaît bien les 10 commandements qui ont été donnés à Moïse, mais les Juifs en avaient dénombré en tout dans l'Ancien Testament, ils ont bien lu tous les passages, ils en ont dénombré 613 commandements qu'ils ont codifiés. Quand bien même vous arriviez à en observer 612 sur 613, si vous n'arriviez pas à un seul dans la liste, eh bien, vous aviez péché contre tous les commandements. Galates chapitre 3, verset 10, voilà ce qu'explique Paul. « Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « maudit » et « quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne les met pas en pratique. Vous voyez qu'ils étaient vraiment dans une impasse. C'est que quand bien même vous arriviez au maximum du maximum, immanquablement, un jour ou l'autre, vous alliez pécher contre un commandement, et en péchant contre un commandement, vous héritiez la malédiction. Donc tous ceux qui vivaient sur la loi n'ont même pas pu la mettre en pratique en réalité. Même Moïse. Moïse, c'est vraiment dans l'Ancien Testament, d'ailleurs c'est lui qui a reçu les tables de la loi et qui a écrit le Pentateuch, les cinq premiers livres de la Bible, c'est Moïse. Mais il n'a pas lui-même réussi à mettre en pratique toute la loi. Aucun homme de l'Ancien Testament n'a réussi. Pourtant, ils apprenaient la loi par cœur. Ils l'apprenaient à leurs enfants pour qu'ils le répètent à leurs enfants. Ils tâchaient de la mettre en pratique, mais finalement, ils n'ont jamais pu mettre la loi complètement en pratique. C'est un échec. Le premier rédempteur, donc, était incapable de sauver l'homme. Alors, on va lire dans Ruth chapitre 4 et le verset 2. Donc, on avance toujours dans le livre de Ruth pour vous montrer maintenant l'échec du premier rédempteur. Luc chapitre 4, verset 2. Donc, Boaz va le convoquer. Il va convoquer 10 anciens de la ville. Je lis directement au verset 2. « Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville. Il dit, « Asseyez-vous ici. » Et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, « Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la parcelle de terre qui appartenait à notre frère Élimélec. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, « Acquière-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. » Si tu veux racheter, rachète. Donc c'était bien lui qui avait le droit de rachat en premier, c'était le premier rédempteur. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache, car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat et moi je l'ai après toi. Il répondit, je rachèterai. Dans un premier temps, le premier rédempteur est prêt à racheter. Mais la suite dit, Boaz dit, le jour où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu acquerras en même temps de Ruth, la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, « Je ne puis pas racheter pour mon compte, de peur de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. » Ça, c'était le premier rédempteur. Il a dit, « Je ne puis pas racheter. » Le premier rédempteur donc accepte sans problème au début, sans difficulté, il dit « moi je rachèterai ». Je rachèterai, il voulait bien racheter Naomi, le champ, il voulait bien racheter le champ. Mais quand il a compris qu'il fallait susciter une descendance à Ruth pour honorer la mémoire du défunt, il a dit « non, je ne rachèterai pas » parce qu'il a pressenti que ça allait créer une difficulté dans sa propre famille au niveau de sa descendance. Donc dans la loi c'est ça. Dans la loi, il n'y a pas la compassion, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas le pardon. Dans la loi, c'est simple, c'est œil pour œil, dent pour dent. Même, il fallait haïr son ennemi. Le premier rédempteur a donc échoué, il s'est rétracté, il a dit « je rachèterai », puis il a dit « je ne rachèterai pas ». Il n'a pas pu aboutir au rachat. Et tous ceux qui s'attachent à la loi encore aujourd'hui, tous ceux qui s'attachent à la loi sont dans une impasse parce que ce premier rédempteur ne peut pas racheter complètement. C'est toujours provisoire. Maintenant, on va passer au second rédempteur. Donc, c'est le point 3. C'est dans Ruth, chapitre 4 et le verset 9. Alors, Boaz dit aux anciens du peuple, « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Élimélec, à Kiljon, à Maclon. Et je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Maclon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoin aujourd'hui. » C'est là qu'entre en scène le deuxième rédempteur, c'est Boaz. Et Boaz dit, « Puisque le premier n'a pas accompli ce qu'il devait faire, moi je l'accomplis. » Il devait laisser d'abord le premier passer avant lui. En fait, il a laissé les choses se faire comme il se devait. Le premier rédempteur, c'était la loi. La loi a échoué. Le deuxième rédempteur arrive. Le deuxième rédempteur, c'est Christ. Et c'est par la foi que nous obtenons le pardon des péchés. La loi est venue en premier et la foi est venue en second. D'abord, la loi est l'échec. Ensuite, la foi et l'accomplissement de la loi. Boaz va racheter vraiment Naomi. Contrairement au premier rédempteur qui avait la parole légère, il a dit « je rachèterai, oui, oui ». Mais quand on a étudié le détail, il a reculé. Tandis que le second rédempteur, Boaz, il a dit « je rachèterai », mais il l'a fait une fois pour toutes. Et si vous regardez Jésus-Christ, Jésus-Christ n'est pas venu pour abolir la loi. Il a dit « moi, je suis venu pour l'accomplir ». Et une des paroles, des sept paroles de Jésus sur la croix, c'est « tout est accompli ». Et quand Jésus a dit « tout est accompli », qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire « j'ai accompli, moi, pour vous, toute la loi ». Parce que ce que Dieu demandait à l'homme pour être sauvé, c'était d'accomplir toute la loi. Aucun homme n'y était arrivé, mais Jésus a réussi à accomplir toute la loi sans jamais pécher contre un seul des 613 commandements. Donc quand il dit « moi, j'ai accompli, tout est accompli », ça veut dire « j'ai accompli toute la loi, mais pour vous ». Et aujourd'hui, vous n'avez plus besoin d'accomplir toute la loi. Vous ne pourriez pas l'accomplir de toute manière, mais Christ a accompli toute la loi pour nous. Il n'y a pas à chercher le salut dans la loi. Il n'y a pas à chercher le Rédempteur dans la loi. Le Rédempteur, nous l'avons en Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nos péchés. Jésus nous a donc rachetés de nos péchés. Regardez Jean chapitre 1, verset 17. Vous avez là les deux Rédempteurs qui se font face. La loi a été donnée par Moïse, c'est le premier Rédempteur. Il a échoué. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, c'est le deuxième Rédempteur, et il a réussi là où le premier a échoué. Avec la loi, nous étions étrangers à la vie de Dieu. Nous étions perdus dans nos péchés. Avec la loi, il fallait être membre du peuple de Dieu, il fallait être juif pour honorer Dieu. Il y avait vraiment un peuple à part, le peuple élu. Avec la grâce, tout le monde a accès au salut. Donc c'est vraiment un changement de paradigme. Le rachat de Jésus est tellement puissant. Si vous regardez bien, on a parlé de tous les animaux qu'il fallait dans l'Ancien Testament pour pardonner les péchés et provisoirement. Mais regardez bien le sang de Jésus qui n'a coulé qu'une seule fois. C'était vers l'an 30 après Jésus-Christ, quand il est mort sur la croix, vers l'an 33 à peu près. Eh bien, Jésus, son sang qui a coulé, a le pouvoir d'effacer tous les péchés du monde entier. Vous voyez la différence ? Imaginez le nombre d'animaux qu'il faudrait pour pardonner les péchés du monde entier. Combien d'animaux il faudrait? Déjà, dans l'Ancien Testament, ça y allait. Les sacrifices d'animaux par dizaines, par centaines, par milliers. Ben, je crois bien que tous les animaux y passeraient. Et que ça ne suffirait pas, tout le sang des animaux versés ne suffirait pas, parce qu'il fallait recommencer constamment. Donc non, il n'y a pas d'issue avec le sang des animaux. Tandis que le sang de Jésus-Christ, il est efficace encore aujourd'hui. Il est puissant pour effacer nos péchés et il n'y a pas à y revenir. Donc vous pouvez être racheté aujourd'hui de vos péchés. Avec la loi, en fait, vous étiez exclu du peuple de Dieu, vous étiez mort dans vos péchés. Paul écrit aux Éphésiens, regardez dans Éphésiens 2, 12, les Éphésiens, ce sont des chrétiens, mais d'origine non-juive. Parce qu'il faut se rappeler que l'Église est née parmi les premiers disciples, c'était des Juifs à Jérusalem. Les Pierre, les douze apôtres, tout ça, c'était des Juifs. La première Église, essentiellement, c'était des Juifs, quasiment, c'était que des Juifs. Mais petit à petit, donc, l'Évangile s'est répandu dans le bassin méditerranéen jusqu'à Éphèse. Éphèse, donc, ce n'était donc plus des Juifs, là, maintenant, c'était des gens d'origine païenne. Et regardez ce que Paul leur dit, il dit « Mais vous souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse. » Voilà les païens qui ne sont pas d'origine juive. « Étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Étrangers. Vous étiez des étrangers. Nous étions des étrangers. Nous n'étions pas du peuple juif. Mais avec la grâce, les choses ont changé. La foi a donné accès à l'ouverture au salut du monde, c'est dans Galates chapitre 3, verset 11, « et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. » Donc Paul dit « ce n'est plus la loi, ce n'est plus le premier rédempteur qui va vous justifier aujourd'hui. » Il dit « cela est évident puisqu'il est dit « le juste vivra par la foi ». Ça c'est le deuxième rédempteur, c'est Christ, parce qu'on est sauvé par la foi en Christ maintenant. Donc l'avantage avec la foi, ben, c'est que tout le monde peut croire, et c'est tellement vrai que Jésus, il explique ça très simplement, il prend l'exemple des enfants, parce que il y a des parents qui amenaient des enfants vers Jésus pour qu'il les bénisse, et les disciples les en empêchaient. Et Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants, ne les en empêchez pas, parce que le royaume de Dieu est pour ceux qui le ressentent. Bien, tout simplement, la foi, c'est croire comme croit un enfant. Un enfant, si le parent, il dit à un enfant, tu verras, par exemple, la semaine prochaine, tu auras ce joli vélo que je t'ai promis. Donc lui, il y croit. Il croit ses parents, il fait confiance à ses parents naturellement. C'est une foi enfantine, une foi simple, mais une foi réelle, une confiance réelle. Si Dieu dit quelque chose, eh bien nous croyons qu'il est capable de l'accomplir et qu'il va l'accomplir selon ses promesses. La loi était donc devenue pour nous une source de malédiction, parce que si vous péchiez contre un seul commandement, vous étiez condamné. Personne ne pouvait la mettre en pratique. Mais Jésus a changé la malédiction de la loi en bénédiction pour nous. Regardez Galates 3.13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. C'est bien ce que nous étions sous la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous, il a pris sur lui la malédiction que nous devions hériter. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Ben, personne n'a compris le jour où Jésus est mort, qu'est-ce qui s'est passé spirituellement. Les gens, ils ont vu juste Jésus crucifié, mais ils n'ont pas compris qu'est-ce qui se passait au niveau spirituel. C'était tellement puissant. Parce que quand Jésus est mort, la croix n'est pas un hasard. Il fallait que son sang soit versé. Et la croix était réservée aux criminels. C'était une malédiction pour le pays. Mais il fallait que Jésus soit maudit. Il fallait que Jésus reçoive sur lui la colère de Dieu pour que nous puissions avoir le pardon et la vie éternelle. Il fallait qu'il passe par la croix. Je prends souvent l'image du paratonnerre. Des fois, on met des paratonnerres en haut des tours. Ça permet d'attirer la foudre. Et ainsi, ça épargne les gens. C'est comme si Jésus a été un paratonnerre pour attirer la colère de Dieu, comme la foudre. La colère de Dieu est tombée sur lui, mais ça veut dire qu'il a eu la malédiction afin que nous soyons bénis. Maintenant, comment être racheté aujourd'hui ? Eh bien, tous les sacrifices de l'Ancien Testament, ils étaient provisoires, et nous savons qu'ils ne pouvaient pas vraiment sauver du péché. Aujourd'hui, le sang de Jésus, il est définitif, donc on ne parle pas de crucifixion provisoire, c'est fait, une fois pour toutes, c'est définitif, et le sang de Jésus a le pouvoir de pardonner nos péchés. Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est que ce n'est pas simplement nos péchés que Jésus a pardonné à la croix, les péchés qui allaient venir, les péchés du monde entier, mais ça a eu un effet rétroactif. Si vous lisez Romains chapitre 3, verset 25, c'est-à-dire tous ceux qui étaient pécheurs dans l'Ancien Testament, ils étaient provisoirement pardonnés par le sang des animaux jusqu'au sacrifice de Jésus qui a vraiment pardonné leurs péchés. Romains 3, 25, c'est lui, Jésus, que Dieu a destiné à être par son propre sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Regardez bien la fin de ce verset. Il y avait donc des péchés qui avaient été commis. Jusqu'à Jésus-Christ, il y avait eu des péchés qui avaient été commis. Ces péchés avaient été provisoirement pardonnés par le sang des animaux. Mais c'est Jésus-Christ qui, à la croix, a réellement, efficacement pardonné tous les péchés. Les péchés passés, présents, futurs. Donc il y a, en Christ, un pardon absolu. Tout ce qui était le sang des animaux, c'était provisoire, ce n'était pas définitif. Le sang de Jésus, c'est définitif. Si vous voulez être pardonné de vos péchés aujourd'hui, en fait, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de venir à Jésus qui est mort à la croix pour vos péchés et demander pardon. Et son sang effacera vos péchés. C'est le deuxième rédempteur. Il est plus efficace que le premier, puisqu'il pardonne vraiment. Le premier a échoué. Si vous cherchez encore le salut dans la loi, c'est une impasse, c'est impossible. La seule chose, c'est de demander pardon à Dieu par la foi. Je termine avec un dernier point, c'est le verset 17, toujours dans Ruth chapitre 4. C'est la descendance de Ruth. Les voisines lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Naomi ». Et elles l'appelèrent Obed. Obed, c'était le père d'Isaïe qui fut le père de David. Regardez un petit peu la généalogie de Ruth. Elle est intéressante, cette généalogie. Obed, ça veut dire servant Dieu. Et dans la généalogie de Matthieu, puisque Matthieu reprend toute la lignée de Jésus-Christ, vous retrouvez Obed et vous découvrez que Boaz, en fait, sa mère, c'était Rahab. Et si vous connaissez un peu l'histoire de l'Ancien Testament, vous savez que Rahab, c'était une prostituée. C'était une prostituée dans la ville de Jéricho qui a caché des espions et qui a été finalement adoptée par le peuple de Dieu. Mais à la base, elle était d'un peuple cananéen, ennemi du peuple de Dieu, et elle a été comme rachetée, comme ramenée dans le peuple de Dieu. Elle fait partie de la descendance de Christ puisque c'est la mère de Boaz. Et concernant Ruth, la mère d'Obed, donc c'est Ruth, c'était une étrangère, une Moabite, encore un peuple ennemi du peuple de Dieu. Ça veut dire qu'entre la prostituée et l'étrangère, dans la généalogie de Jésus, il y a déjà la grâce de Dieu pour tous, pour les plus bas tombés, pour ceux qui sont exclus de la société, pour les étrangers, pour ceux dont personne ne veut, parce que personne à l'époque n'aurait même pensé avoir une prostituée dans sa lignée. Voyez, Jésus n'a pas eu honte, n'a pas eu peur que ça soit mentionné qu'il y ait Rahab dans sa lignée. Jésus, d'ailleurs, est né dans une condition très humble. Je ne sais pas si vous vous rappelez comment est né Jésus, mais il n'y avait pas de... D'abord, à l'époque, il n'y avait pas de clinique pour les accouchements. Il fallait trouver des lieux propices. Et comme ils avaient déménagé à Bethléem pour le recensement, il n'y avait plus rien d'ouvert. Il n'y avait pas d'hôtel possible. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est une étable, c'est-à-dire un lieu où on nourrit les animaux. Jésus est né dans une étable, une très humble condition. Pourquoi ? En fait, c'est parce que Dieu a voulu que Jésus naisse dans une humble condition pour se glorifier. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27. « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. » Voilà ce que Dieu fait. Il choisit les choses humbles, les choses rejetées, les choses petites. On va prier quelques instants. Et je vais inviter Delphine à venir pour prendre doucement ce morceau. On a parlé de ce premier rédempteur, c'est la loi. La loi a permis l'arrivée du deuxième rédempteur, c'est Jésus-Christ. Galates chapitre 3, verset 24, « Ainsi la loi a été donnée comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. » La loi était donc un élément important pour nous amener au deuxième rédempteur qui est Christ. Mais si vous voulez être sauvés, vous ne devez pas rester dans la loi. Vous ne devez pas rester dans une religion, vous ne devez pas rester dans une œuvre humaine, mais cherchez le Rédempteur, Jésus-Christ. Jésus-Christ peut vous racheter, Jésus-Christ peut vous sauver. Le livre de Ruth, c'est ceci. Il montre le chemin du vrai Rédempteur. Gardez les yeux fixés sur lui, c'est Jésus qui suscite la foi et qui permet votre salut. Vous avez peut-être essayé la loi, vous avez peut-être essayé le bouddhisme, vous avez peut-être essayé telle ou telle religion, que sais-je. En tout cas, il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a qu'un seul Rédempteur, c'est Jésus-Christ. C'est par lui que nous allons à Dieu. Aujourd'hui, peut-être votre vie est dans une impasse parce que vous n'êtes pas encore allé trouver le Rédempteur. Vous avez cherché partout. Jésus vous aime. Il a un plan pour vous. J'aimerais prier pour vous. Merci encore pour ta grâce, pour ta présence, parce que nous avons accès à ce Rédempteur puissant, Jésus-Christ, qui pardonne vraiment nos péchés, qui nous donne un nouveau départ et qui nous permet de vivre l'abondance. Merci Seigneur de bénir chaque personne qui est venue dans ce lieu afin qu'il y ait une prise de conscience de la puissance du Rédempteur Jésus-Christ, de la libération de nos péchés, de nos maladies, de la délivrance que nous pouvons avoir dans ce Rédempteur qui est tout pour nous. Et nous voulons, comme cette femme, nous coucher au pied de ce Rédempteur en disant « Seigneur, prends ma vie, prends mes mains, prends mon âme, dirige-moi tout entier dans ta volonté, dans le nom de Jésus. Amen. » Que le Seigneur vous bénisse.